matin, nous serons de nouveau dans la Genèse. Je dis de nouveau parce que si vous étiez là en première partie, nous y étions déjà ce matin. Genèse chapitre 22, cette fois-ci, un peu plus loin. Et nous allons parler d'un personnage que je suis convaincu vous connaissez quand même assez bien. Celui d'Abraham. Abraham, et nous allons parler d'un récit qu'encore, je crois que vous connaissez bien. Et pourtant, de rappeler les choses, de revenir sur les vérités bibliques, ce n'est jamais une mauvaise chose et c'est même nécessaire. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament combien de fois Dieu a rappelé à son peuple ses commandements et ses ordonnances. Nous voyons que des rappels sont essentiels pour nous et c'est ce que nous avons ici ce matin. Dans Genèse chapitre 22, nous avons en fait l'épreuve par laquelle Dieu fait passer Abraham lorsqu'il lui demande de sacrifier son fils. Et j'aimerais lire ces versets pour vous ce matin. Suivez avec moi, ce sera un passage un peu plus long que nous avons l'habitude de lire, mais cela nous sera bénéfique. Alors, Genèse chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous demandons à ce que tu nous conduises pendant ces quelques instants que nous allons passer dans ta parole, que tu ouvres le cœur de notre intelligence pour nous faire comprendre ta parole et surtout pour nous aider à la mettre en pratique. Entendons-nous, prions. Alors, ce récit fait partie de ces quelques récits que parfois nous avons vraiment du mal à comprendre et accepter. Nous lisons les mots, nous connaissons l'histoire, et pourtant, en les lisant, on se dit, mais non, c'est pas possible. c'est pas vrai. Dieu n'aurait pas demandé ça. Ceci ne s'est pas réellement passé. Non, non, mais c'est pas possible. Et pourtant, ça l'est. C'est dans la Bible. Et à nous de le comprendre et de l'accepter. Étant donné que nous connaissons la fin, nous savons l'issue. Nous savons que dans un sens, tout se passe bien. Il y a une fin dans ce sens heureuse. Ça nous soulage un peu. Mais juste pendant quelques instants, essayez de vous mettre à la place d'Abraham avant que tout ceci se passe. Lui, il ne sait pas ce qui arrive. Jusque-là, Abraham avait eu quelques entretiens avec Dieu. Dieu s'était révélé à lui et Dieu lui avait demandé de faire un certain nombre de choses. Des choses qui n'étaient pas très, très difficiles. Parmi les plus dures, c'était de partir de son pays, de Ur en Chaldée, partir du pays de sa famille et de venir à Canaan. Ça, c'était parmi les choses les plus dures. Mais même là, bon, ce n'était pas très, très dur. Et tout ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire jusque-là, bon, Abraham l'a fait. Abraham était obéissant. Bon, il avait ses défauts. Il avait péché en disant que Sarah, à deux reprises, était sa sœur. Mais bon, dans tout ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire, Abraham avait obéi. Et là, après ces choses, nous voyons au verset 1, Dieu va de nouveau se révéler à Abraham. Et Moïse, en écrivant ceci, parce que c'est lui l'auteur, va préciser que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et ce n'est pas simplement que Dieu permet l'épreuve de venir dans la vie d'Abraham, mais c'est lui-même qui l'emmène. Dieu met Abraham à l'épreuve. Et en fait, le mot que Moïse emploie ici, c'est l'épreuve dans le sens examen. Vous savez, on parle souvent à l'école de passer des épreuves scolaires, des examens. Ce sont les moments les plus attendus des étudiants, n'est-ce pas? Donc, voilà, les étudiants, ils n'attendent que les épreuves, n'est-ce pas? Quel étudiant est comme ça? Moi, je n'étais pas comme ça. Non, il n'y a aucun étudiant qui est comme ça. On n'aime pas les épreuves. Et pourtant, voilà, ce sont des examens, des tests pour examiner notre connaissance qu'on a pu bien retenir. Et c'est le sens du mot ici. Dieu met Abraham à l'examen. Il va le tester, l'examiner. Et du coup, Abraham ne le sait pas. Mais d'un coup, Dieu se révèle à Abraham et dit, il appelle et Abraham répond, me voici. Et je peux imaginer que Abraham, en entendant la voix de Dieu, a été dans la joie. Ouais, amen, Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu va me demander de faire? Comment est-ce qu'il va me diriger? J'entends la voix de Dieu, il se révèle à moi, c'est formidable. Et je suis convaincu que Jonas, il a eu un peu cette même réaction. Dieu s'était servi de lui de prophétiser le retour de certaines villes en Israël. Et voilà, ça s'est passé exactement comme ça. C'était formidable. Dieu se révèle une deuxième fois à Jonas. Et Jonas dit, me voici, oui, c'est très bien. Et Dieu lui envoie à Ninive et dit, ah, mais sûrement pas. Non, je n'irai pas là. Non, mais Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est Ninivite, ils sont méchants, ils sont rebelles, ils te rejettent et tout. Non, je ne le ferai pas. Mais sa première réaction, c'était oui. Dieu, tu me parles, c'est très bien. Et Abraham, il était même dans ce même état d'esprit. Il répondit, me voici, Dieu me parle. C'est formidable. Imaginez-vous, Dieu vous parle. Ben, vous allez dire, c'est extraordinaire. Amen. Et là, on voit verset 2 ce que Dieu lui dit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Oui, amen, gloire à Dieu, ok, Dieu, je le prends, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va travailler ensemble, on va œuvrer pour toi, on va accomplir quelque chose? Non, non. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sacrifie ton fils. C'est ce que Dieu lui dit. Et essayez de vous mettre à la place d'Abraham. Nous connaissons la suite. Nous savons que tout se passera bien pour Isaac, que Dieu va arrêter Abraham et tout. Mais là, Abraham ne le sait pas. Et Abraham, en entendant cela, imaginez-vous comment il a dû se ressentir. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir à ce moment? Mais non, Dieu, c'est pas possible. Non, Dieu, c'est impensable. Dieu, c'est illogique. Dieu, c'est contraire à tout ce que tu m'as promis. Non, mais Dieu, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Je ne doute pas que des pensées comme celle-là commençaient à venir dans l'esprit d'Abraham. Lorsqu'il entend que Dieu lui-même lui demande de sacrifier son fils. Alors que c'est contraire à tout ce que Dieu avait dit, dans un sens c'est contraire même au caractère de Dieu, Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Non. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande. Dieu est clair, il parle une fois et dit « Voilà ce que j'attends de toi. » Et n'est-il pas vrai que parfois, nous sommes devant des situations, Dieu nous met à l'épreuve. Il permet quelque chose dans notre vie. Parfois, il l'emmène même pour nous éprouver, pour nous tester, pour nous mettre à l'examen, pour voir si notre foi sera stable, si notre foi sera ferme. Parce que nous le voyons dans ce passage et aussi dans l'Épître aux Hébreux, que la grande question ici portait sur la foi d'Abraham. Et que Abraham a tenu ferme. Et chaque jour, nous sommes confrontés avec des situations, parfois des situations qui nous semblent illogiques. Des situations que nous n'arrivons pas à comprendre, des situations qui font mal. Vous qui êtes parents, imaginez devoir donner un de vos enfants. Même si vous en avez plusieurs, et c'est le cas pour plusieurs parents ici, même si vous en avez plusieurs, en perdre un, ce serait une drame. Ce n'est pas comme si vous dites, ah, c'est tant pis, j'en ai encore. Mais non, quel parent aurait cette idée? Non. Mais là, c'est le fils unique d'Abraham et il ne peut pas espérer en avoir d'autres. Déjà, Isaac était un miracle. Abraham, à ce moment-ci, il avait plus de 100 ans. Il ne pouvait pas espérer avoir encore des enfants. Déjà, il n'aurait pas dû en avoir. Mais Dieu lui donne ce fils de la promesse, comme on l'appelle. Et là, Dieu lui demande de sacrifier son fils, de donner ce qui était le plus précieux pour lui. Et comme j'ai dit, je suis convaincu que ces pensées, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais non, Dieu, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire? Toutes ces pensées sont venues dans l'esprit d'Abraham. Mais là, verset 3. Sans aucune hésitation extérieure, même si je suis convaincu à l'intérieur, il y avait un tourbillon, il était pris de tous les côtés. Là, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac. Et là, à la fin du verset, il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham part tout de suite. Il n'essaie pas de discuter avec Dieu en disant « Non, mais Dieu, tu fais une erreur là, non, Dieu, c'est pas possible, peut-être j'ai mal compris. » Non, il se lève et il le fait. Et une chose extraordinaire est dite dans Hébreux chapitre 11. Alors, allez avec moi dans ce passage. Dans Hébreux chapitre 11, on parle de cet événement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend quelque chose sur le raisonnement d'Abraham. Hébreux chapitre 11 et le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Donc, c'est Genèse chapitre 22. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Alors la logique veut que si on tue Isaac, toutes les promesses de Dieu tombent à l'eau, n'est-ce pas? Si le fils de la promesse est mort, plus de postérité. Mais là, verset 19, regardez, voici la pensée d'Abraham. Il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, bien sûr, du sacrifice de Jésus-Christ qui allait venir par la suite. Mais le fait que Abraham s'est dit en lui-même, je ne comprends pas pourquoi Dieu me demande de faire ceci. Ceci me semble illogique. Ceci me semble aller à l'encontre de tout ce que Dieu m'a promis, de tout ce que je sais de Dieu. Mais Dieu me demande de le faire. Ça, c'est clair. Il s'est révélé à moi et du coup, il me demande de faire ceci. Je ne sais pas pourquoi. Et même si je dois aller jusqu'au bout, je suis convaincu que Dieu peut même ressusciter mon fils. Quelle foi, n'est-ce pas? Que même s'il devait tuer Isaac, que Dieu pourvoirait un moyen de continuer la postérité. Et il s'est dit, même si je dois tuer mon fils, bon, Dieu va le ressusciter. Dieu fera quelque chose. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre cela, cet aspect de la foi d'Abraham. Et nous revenons dans Genèse chapitre 22. Et Abraham, même si tout montrait le contraire, même si je suis certain, ses serviteurs se sont posés des questions, mais qu'est-ce qu'on fait? Imaginez Sarah. On ne parle pas d'elle dans cette histoire, mais imaginez-vous, la mère. Bon, les pères, ils aiment leurs enfants, rien à dire. Mais il y a un lien particulier entre une maman et ses enfants. Et imaginez-vous comment elle a dû se sentir. Mais Abraham part, malgré les interrogations qu'il se fait lui-même, malgré les interrogations des autres, que ce soit les serviteurs ou bien que ce soit Isaac. Et là, il va jusqu'au bout. Et il fait tout ce que Dieu lui demande. Et verset 9, on y revient. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et entre parenthèses, qui ne semble pas résister. Et on reviendra sur Isaac dans quelques instants, mais il ne semble pas résister. Le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, ce récit fait concurrence avec tous les grands films hollywoodiens. Vous savez, vous regardez un film et il y a une scène un peu tendue et tout. Là, vous êtes au bord de votre chaise. Comment est-ce que ça va passer? Oh, non, non, il ne va pas faire ça. N'ouvre pas la porte. Non, ne va pas là. Et c'est là ce qu'on ressent ici. Mais Abraham, il est là, il est au-dessus d'Isaac, il a le couteau. Il va égorger son fils et on se dit, mais non, Abraham, arrête, ne le fais pas. Et c'est ce que Dieu fait, bien sûr. Mais Abraham était prêt à aller jusqu'au bout. Son fils était là sur l'autel. Tout était en place. Il ne manquait rien. Abraham ne faisait pas semblant. Il était prêt à tuer son fils. Pourquoi? Parce que Dieu le lui avait dit. Et que Abraham s'est dit, même si je dois tuer mon fils, même si mon fils meurt, Dieu est assez puissant pour le ressusciter et encore accomplir ses promesses à moi. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on voit la foi d'Abraham, qui était prêt à aller jusqu'au bout. Il ne faisait pas, comme j'ai dit, semblant. Ce n'était pas simplement les gestes en disant « Ah oui, mais de toutes les façons, Dieu m'arrêtera, de toutes les façons, ceci et cela. » Non, c'était « Je vais jusqu'au bout. » Et même si Dieu ne m'arrête pas, il fera encore quelque chose par la suite. Et de voir l'exemple d'Abraham, cela doit nous toucher. Parce que je suis convaincu, Dieu n'appellera personne ici à offrir leur enfant. Ça, j'en suis convaincu, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Si vous avez des enfants, ne craignez rien. Et pourtant, nous qui sommes les enfants de Dieu, si nous le sommes réellement, Dieu nous demande parfois de sacrifier des choses. Dieu nous fait passer par des épreuves. Et parfois, Dieu enlève des choses dans notre vie, comme il a fait avec Job. Parfois, Dieu nous fait passer par des injustices, comme avec Joseph. Parfois, Dieu enlève ce qui nous est cher, parce qu'il veut nous tester, parce qu'il veut que nous montrions la réalité de notre foi. Il veut voir cela en nous. Et verset 1, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce que c'est parce que Dieu ignorait si Abraham serait fidèle ou pas? Non. Verset 11, on lit, l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Verset 12, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu ne le savait-il pas auparavant? Absolument. Mais maintenant, il a pu le montrer à Abraham. Parce que dire des choses, c'est très facile. Pour moi, de me tenir ici derrière ce pupitre et de vous exposer des vérités bibliques, dans un sens, c'est plutôt facile. Pour vous, de les entendre, d'être d'accord avec cela, ça ne demande pas grand-chose. Mais au sein de l'épreuve, lorsque nous sommes confrontés avec des situations dans notre famille où les gens sont incompréhensifs, lorsque nous sommes au travail et nous ne voyons pas d'issue, lorsque nous sommes dans notre quartier et puis on ne sait pas du tout comment agir, lorsque nous avons un problème et on ne sait pas du tout comment le régler, c'est à ce moment-là où la réalité de notre foi se manifeste. Et pour montrer à Abraham quelle était la réalité de sa foi, Dieu était obligé de le faire passer par cette épreuve. Et Dieu dit, maintenant je sais. Bien sûr, il le savait. Abraham était libre de son choix. Dieu ne l'a pas forcé à faire ceci. Abraham était libre. Dieu savait quel choix il ferait. Et par cela, il a pu manifester à Abraham et par extension à nous, bien sûr, quelle est la réalité, quelle était la réalité de sa foi. Et dans notre vie, oui, des choses compliquées arrivent. La vie n'est pas simple. Surtout, on a des relations avec les uns et les autres, c'est pas simple. Il y aura des tensions, il y a des malentendus, des désaccords, tout. Il y aura des difficultés physiques qui vont arriver. Là, dernièrement, j'ai entendu parler de plusieurs personnes, entre autres, bien sûr, le frère Daudelaire, mais même d'autres, ben, des soucis de santé. Parfois, c'est un peu grave, parfois, c'est très grave. Et comment réagir face à cela? Problèmes physiques, problèmes relationnels, problèmes financiers, toutes sortes de problèmes, des injustices peut-être que nous subissons. Et quelle est notre réaction face à cela? Et si Dieu enlève quelque chose de notre vie, comment le voyons-nous? Est-ce que nous voyons cela comme une perte, la plus grande perte? Est-ce que nous sommes déstabilisés? Ou est-ce que comme Abraham, nous pouvons dire, oui, je donnerai? Parce que de toutes les façons, Dieu est assez grand et Dieu est assez puissant pour continuer d'accomplir ses promesses, même sans telle ou telle chose, même sans telle ou telle personne. Dieu accomplira ses promesses. Et s'il lui faut passer par la résurrection, ben, il le fera, il peut. S'il lui faut passer par autre chose, ben, il le fera. Parce que Dieu est assez grand pour faire cela. Dieu est un Dieu immense. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Abraham était entièrement convaincu de cela. Alors que jusque-là, on n'avait jamais entendu parler de résurrection. Les gens, ils vivaient, ils mouraient. à point, c'est tout. Et Abraham, il croyait même là à la résurrection. Il croyait dans la puissance de Dieu, alors qu'il était totalement bouleversé. Je suis certain, par moments, il ne savait même pas quoi penser pendant ces 3 jours de marche de Beersheba au mont Morija. Imaginez-vous ces 3 jours d'angoisse, de questions qu'il se pose, et pourtant il continue, un pied avant l'autre, il continue jusque-là, et puis il accomplit tout ce que Dieu lui demande. Et dans notre vie, nous apprenons une nouvelle. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sombrons? Quelque chose nous arrive? Quelle est notre réaction? Est-ce que c'est la réaction d'Abraham? Parce que nous sommes confiants que Dieu continue d'agir, même si nous ne le comprenons pas, et que Dieu est là, et qu'il est le Tout-Puissant qui peut agir. Est-ce que nous avons cette réaction d'Abraham? Est-ce que nous manifestons cette foi que lui, il a manifestée? Abraham aurait pu parler autant qu'il voulait de sa foi. S'il n'était pas passé par cette expérience, sa foi, on aurait pu se poser des questions sur la réalité de cela. On aurait pu douter de sa foi. Il aurait pu en parler autant qu'il voulait. Mais il fallait cette expérience-là pour prouver la réalité de sa foi en Dieu. Et pour nous, il nous faut des situations difficiles dans notre vie pour prouver la réalité de notre foi en Dieu. C'est difficile, c'est dur, ça fait mal. Le monde ne le comprend pas. Mais comme nous voyons dans Jean chapitre 15, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents, nous sommes appelés, si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous sommes appelés à être différents. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce verset dans les Actes où, après avoir été battu, maltraités par les chefs religieux, les disciples, ils reviennent vers les 120, vers tous ceux qui étaient réunis, et ils louent et glorifient Dieu d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour la cause du Christ. Qui ici aurait cette attitude? Je vous dis que je crains que moi je ne l'aurai pas. Je crains que, à la place de Pierre et Jean, moi, je me serais plaint. J'aurais posé des questions à Dieu en disant, mais Dieu, je ne mérite pas ça. Dieu, je fais ton œuvre, je témoigne et tu permets toutes ces choses. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué Dieu qu'ils étaient trouvés dignes de souffrir pour Christ. Et Abraham, qui faisait tout ce que Dieu lui demandait, qui venait de réussir dans sa vie, Dieu l'avait béni à tous les niveaux. Et là, Dieu lui demande cela. La réaction d'Abraham n'était pas « Non, mais c'est pas possible, Dieu, je ne peux pas. Non, c'est mon fils unique. Je n'ai que celui-là. Non, je ne peux pas. Je vais essayer de trouver un autre moyen. On va s'arranger. » Non, non, non. Abraham a obéi. Et apparemment, Abraham a enseigné cela à son fils. Même avant cette épreuve, il avait transmis sa foi à Isaac, parce que nous voyons, verset 6, après avoir laissé les serviteurs en bas de la montagne, verset 6, bien sûr, Abraham il va prendre le bois, il va le charger sur Isaac, il va prendre le feu, le couteau, tout ce qu'il faut. Et verset 7, Isaac va parler à Abraham, son père, et il va poser cette question, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? On comprend, c'est une question logique. Apparemment, il savait qu'on allait faire une Holocauste, et il se dit, mais logiquement, il nous faut un agneau. Il nous faut quelque chose à sacrifier, je ne le vois pas. Alors, où est-il? Et bien sûr, Abraham va lui répondre, Dieu va pourvoir un agneau. Et puis, verset 9, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il va lier Isaac, qui apparemment ne s'y oppose pas. Il va le mettre sur l'autel, va par-dessus le bois. Isaac ne conteste pas. Isaac n'est pas là en train de crier, mais non, qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas et tout. Non. Il suit parce qu'il fait confiance à son père et son père fait confiance à Dieu. Et Isaac est prêt à aller jusqu'à la mort. Isaac ne s'attachait pas à sa vie en disant, non, je ne veux pas subir cela. Non, Isaac était prêt à mourir, tout comme son père était prêt à le mettre à mort. Et cet exemple de père et de fils, Abraham qui transmet cette foi, cette confiance en Dieu à son fils, quel exemple pour nous? Les adultes qui doivent transmettre cela aux jeunes, les parents bien sûr qui doivent transmettre cette foi en Dieu à leurs enfants. C'est tellement important. Parce que imaginez-vous si Isaac avait fait toute une scène, qu'il aurait essayé de s'échapper, s'esquiver en disant, mais monter sur l'autel, me faire lier, donner ma vie, ah, c'est ça. Maintenant, bah, je rentre à la maison. Maintenant, je ne veux pas de ça. Imaginez-vous Isaac qui aurait eu cette attitude. Mais non, il n'en a pas eu. Il était prêt à mourir. Et par cet exemple d'Abraham et d'Isaac, Dieu, pendant tout le reste de la Bible, parle d'eux. Ils sont parmi ces personnages qui reviennent très souvent dans la Bible. Et nous voyons au verset 14, bien sûr, Abraham reconnaît que cette délivrance vient de Dieu. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, qui veut dire littéralement Dieu pourvoit, l'Éternel pourvoit. Et bien sûr, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et puis, verset 16 jusqu'à 18, nous voyons pourquoi, la grande raison pour laquelle il faut rester fidèle. Parce que non seulement Dieu avait demandé à Abraham de faire cela et Abraham était obéissant, tout ce que Dieu nous demande de faire, nous devrions obéir. Là, il ne devrait jamais être question de désobéir ouvertement à Dieu. Mais parfois, on se pose la question, mais quel avantage pour moi? Pourquoi devrais-je obéir? Et on voit verset 16, Dieu dit à Abraham, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. » Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et là, verset 18, la clé. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous recevons des bénédictions aujourd'hui parce que Abraham était obéissant. Si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est en partie à cause d'Abraham. Cette pensée-là, elle est extraordinaire. L'étendue de l'impact de l'obéissance d'Abraham ne peut pas être minimisée. Et imaginez-vous si Abraham avait désobéi. Imaginez-vous si Abraham avait failli. S'il avait essayé de s'arranger avec Dieu en disant, bon, Dieu, je ne peux pas faire ça, mais bon, au moins je peux faire ceci. Je peux faire un peu, mais bon, là, Dieu, tu demandes de trop. Non, ce n'est pas possible. Imaginez-vous si Abraham avait fait ça. Nous serions passés à côté des bénédictions. Parce que c'est uniquement parce que Abraham a obéi que toutes ces bénédictions sont venues par la suite. Et de penser que mon obéissance aujourd'hui va impacter d'autres. Et peut-être d'autres des dizaines, des cent, voire des centaines, si le Seigneur tarde, des centaines d'années plus tard. Et que si je désobéis, si je ne vais pas jusqu'au bout, je prive d'autres des bénédictions et de l'impact de mon obéissance. C'est quand même une grande pensée. C'est une pensée qui devrait nous faire changer à la fois d'attitude et de conduite. Et Dieu révèle à Abraham qu'à cause de son obéissance, là, il allait bénir tous les peuples de la terre. Et bien sûr, cela s'est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Là, le salut est offert à tous, gloire à Dieu. Mais nous avons son exemple, et nous avons toutes ces bénédictions que Dieu promet, qui viennent à travers Abraham. Et cette pensée effrayante que je peux priver d'autres de bénédictions si moi je désobéis. Mais aussi cette pensée glorieuse que je peux impacter la vie des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens par mon obéissance. Et mon obéissance, lorsque tout semble aller de travers, lorsque je ne comprends pas, lorsque ça fait mal, de continuer, de persévérer et de faire ce que Dieu me demande de faire en comptant sur lui et sur sa puissance qui peut dépasser toute limite. Quand je suis obéissant jusqu'au bout dans cela, à ce moment-là, l'impact que nous pouvons avoir est au-delà de ce que nous pouvons penser ou même croire. Quand Dieu révèle ceci à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham était très, très loin d'imaginer qu'à peu près 3000 ans plus tard, dans la ville de Vernon, des hommes et des femmes se réuniraient pour parler de lui. Et pourtant, c'est la réalité. Et si nous obéissons à Dieu aujourd'hui, peut-être d'ici 3000 ans, si le Seigneur tarde, les gens vont parler de nous. Ah oui, les chrétiens de Vernon, ils étaient fidèles, ils ont obéi. Et voilà un chrétien spécifiquement, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que peut faire notre obéissance, et tout cela pour la gloire de Dieu. Bien sûr, non pas pour que les gens disent, voilà, quel grand chrétien, quelle grande église, non, mais quel grand Dieu qui a pu faire tout cela. Et bien sûr, le monde va de mal en pis. Nous le voyons autour de nous. De plus en plus, les hommes rejettent Dieu, font des choix désastreux, essaie de faire passer des lois qui sont totalement anti-bibliques, anti-nature parfois, contre-nature. Et pourtant, notre devoir en tant que chrétien, c'est de continuer d'obéir à Dieu. Dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre travail, dans l'église, partout où nous allons. D'obéir. Être prêt à sacrifier, c'est ce que Dieu demande de nous. Ce sacrifice qui peut faire mal, que peut-être nous ne comprenons pas sur le moment, et pourtant il nous appelle de faire un sacrifice. Et là, de le faire, d'être obéissant, et par cela, Dieu va pouvoir agir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'avait pas besoin d'Abraham pour faire ceci. Et pourtant, il intègre à son plan, et il veut faire grandir Abraham, lui montrer la réalité de sa foi. Et Dieu veut faire pareil en nous. Il veut révéler la réalité de notre foi. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais Dieu va dire, voilà, je vais permettre quelque chose dans ta vie, et là, on verra. Et nous avons la possibilité de surmonter, nous avons la possibilité de demeurer ferme par la puissance de Dieu. Cette possibilité est là. À nous de la saisir, à nous de nous inspirer de l'exemple d'Abraham. Et lorsque ces moments viennent, et elles viendront, ils viendront ces moments, où nous nous posons des questions, où tout semble difficile, à ce moment-là, nous allons pouvoir revenir à cet exemple et dire, Seigneur, aide-moi. Je veux être comme Abraham. Je veux avoir cette foi. Je veux manifester cette foi autour de nous, autour de moi, pour que tous ceux qui m'entourent puissent te voir. Et que d'autres soient bénis, d'autres soient encouragés en me voyant et surtout en voyant ce que tu fais à travers moi. C'est une décision personnelle. Dieu veut que nous la prenions. Et ce choix, ce n'est pas un choix une fois pour toutes. Non, c'est un choix qui doit être renouvelé tous les jours. Parce que nous faisons face à de nouvelles attaques de nouvelles situations tous les jours. Et à chaque instant, il faut dire, je réaffirme ma foi, ma confiance en Dieu. Je vais aller jusqu'au bout, je vais obéir. C'est ce que je ferai, par la grâce de Dieu. Parce que Abraham l'a fait, Dieu est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce même Dieu qui a aidé Abraham, qui était avec lui, sera avec moi. C'est ça qui doit être notre pensée aujourd'hui, en ce dimanche, et puis tout au long de cette semaine. Renouveler tous les matins cette prière. Seigneur, je me confie en toi, aide-moi. Je veux manifester la réalité de ma foi pour toi aujourd'hui. Prie, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole et pour cet exemple d'Abraham. Et nous demandons ton aide, Seigneur. Nous sommes faibles en nous-mêmes, mais avec toi, tout est possible. Nous demandons à ce que tu puisses nous rendre capables d'être entièrement obéissants, d'aller jusqu'au bout dans l'épreuve, que nous puissions manifester la réalité de notre foi en toi, que ce ne soit pas simplement des paroles, des paroles en l'air, de simples mots, mais au contraire, que ce soit une réalité vivante dans notre vie, pour que nous ayons un impact autour de nous et surtout pour que tu sois glorifié et exalté, Seigneur, que les gens voient la différence et que nous puissions témoigner davantage à cause de cela. C'est en ton nom que nous prions.